Io faccio con l'inizio oggi lo vostro al congolese, perché lei è
Bonsoir, la passation des marchés publics qui permettent de construire des routes, d'acquérir des équipements est désormais régie par de nouvelles procédures. C'est annoncé le ministre du Budget après la promulgation de cette loi par le chef de l'État. Quelles sont les grandes lignes de cette loi, cette nouvelle loi sur la passation des marchés publics? Pourrait-elle combattre la corruption dans ce secteur? Trois invités participent à cette émission. Paul Louanfou, conseiller chargé des réformes au ministère du Budget et point focal pour la réforme des marchés publics, monsieur le conseiller Louanfou. Bonsoir.
Bonsoir.
Lajos Bidiou, député national de l'opposition, cadre du MLC et membre de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Honorable Bidiou, bonsoir.
Bonsoir.
Al Kitenge, analyste économique et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Comme d'habitude, vos réactions, nous les avons déjà. Steve Lubika de Lubumbashi au Katanga. Dans le nouveau code de passation de compte des marchés, le gouvernement a-t-il songé à privilégier les nationaux pour que les entreprises étrangères cessent de nous amener des chauffeurs, des cantonniers et autres manœuvres? Nico Kitenge de Kananga au Kassai occidental. Promulguer cette loi, c'est bien, mais quel est le moral du personnel qui est chargé de son application? Nous sommes mardi 12 avril 2011. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 0481-890-66-68 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
La passation des marchés publics en RDC est désormais guidée par de nouvelles procédures. Le ministre du Budget, Jean-Baptiste Nkawa, l'a expliqué à la presse le samedi dernier à Kinshasa. Ces marchés qui sont régulièrement passés pour construire des routes, acquérir des équipements, sont régis par de nouveaux textes promulgués par le chef de l'État il y a quelques jours. Jean-Baptiste Nkawa, Koudéroi, vous êtes ministre du Budget. Quelles sont les innovations de cette nouvelle loi?
La réforme sur les marchés publics vient de connaître un tournant de physique par la mise en place de différents organes qui doivent conduire cette réforme. En ceci, j'entends l'autorité de régulation des marchés publics, qui est l'autorité qui va s'occuper de la régulation de tous les systèmes de passation des marchés, notamment au travers des audits et des règlements de différents éventuels. Ils vont également s'occuper de la formation ainsi que de l'information. Il y aura une revue des marchés publics. Il y a également la Direction générale de contrôle des marchés publics. C'est elle qui donne l'avis de non-objection au dossier initié par les autorités contractant, c'est-à-dire au travers de celui de gestion des marchés publics. Le marché est initié et soumis au visa à l'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Et enfin, il vient l'autorité approbatrice, c'est-à-dire le Premier ministre pour les marchés à appel d'offres internationales et le ministre du Budget pour les autres marchés à appel d'offres nationaux. Et enfin, le ministre de tutelle pour les marchés des entreprises et établissements publics sous sa tutelle.
Monsieur le conseiller Paul Louansangou, quelles sont les grandes lignes de cette loi?
Merci beaucoup. La loi indique ce texte d'application parce que c'est un dispositif qui est assez complet. Donc la loi est accompagnée de 7 décrets d'application. Cet ensemble est donc réglemente la procédure de passation de marché. Comme l'a relevé son excellence Monsieur le ministre du Budget, des grands principes se dégagent de la nouvelle structure des dispositifs institutionnels. C'est d'abord en termes d'institutions ou d'organes qui doivent prendre en charge la gestion de marché public. Il y a une déconcentration qui s'est opérée. Tout le monde savait que par le passé, pour passer les marchés, il fallait s'adresser au conseil des adjudications du gouvernement. Désormais, on ne passera plus par cet organe qui n'existe plus, qui n'est plus prévu par la loi, mais le service est déconcentré auprès de chaque service gestionnaire. On peut plus dire simplement auprès de chaque grand service de l'État ou ministère ou institution, à travers les cellules de gestion des projets de passation des marchés publics. La deuxième grande innovation par rapport à l'organisation institutionnelle est que le système qui est c'est assez centralisé, donc, au niveau du gouvernement central, et maintenant décentralisé. Donc ça intègre l'aspect décentralisation en permettant aux provinces qui ont l'autonomie financière de pouvoir avoir les dispositifs légaux adaptés aux spécificités de chaque province, donc en termes de vie. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation est que si on est arrivé à revoir les textes qui réorganisent les marchés, parce qu'on est parti de l'observation d'un certain nombre de faiblesses qui appelaient donc des réformes. Alors, parmi les grandes faiblesses, donc, on estimait que les anciens textes étaient essentiellement les textes de 1969, donc qui n'intégraient pas de nouvelles réalités qu'on devait mettre à jour. Parmi les réalités qui n'étaient pas prises en compte, donc la prise en charge dans les textes n'existait pas pour ce qui concerne les marchés d'études ou des prestations intellectuelles. Ce n'était pas réglementé.
C'est-à-dire, par exemple, pour les artistes.
Voilà, tout ça n'était pas réglementé avant. Et deuxièmement, je l'ai dit tantôt, c'est la dimension de centralisation qui est quand même assez nouvelle, qui n'était pas prise en compte. Troisièmement, hein, je vais aller vite parce que c'est un dispositif d'ensemble. Donc, nous avons le personnel qui présentait des défauts en termes d'expertise et tout ça. Et troisièmement, nous avions aussi le problème de moralisation. On va y revenir, je crois qu'il y a un auditeur qui a répondu.
Alors, le ministre que nous avons suivi tout à l'heure cite l'autorité de régulation des marchés publics et la direction générale de contrôle des marchés publics. En quoi ces deux organes sont-ils des innovations?
Voilà, tout à fait. Dans la procédure, nous avons la préparation du dossier qu'on peut appeler dossier des marchés ou dossier d'appel d'offres. Il y a la passation de marché, il y a l'exécution de marché, il y a le contrôle de marché et il y a le suivi d'exécution.
Alors, on a essayé de décentraliser. Sans vous arracher la parole, oui, nous allons prendre un cas pratique. On voudrait aménager une route et quelqu'un s'amène avec un dossier. Quelles sont les étapes? Parce que vous en parlez.
Oui, puisque nous pouvons y aller de façon plus concrète, considérons que c'est le ministère des Travaux publics qui voudrait bâtir des routes ou bien des ponts.
Voilà.
Les besoins, donc, est ressenti ou bien centralisé au niveau de ce ministère. Il y a une cellule de gestion et de passation des marchés qui est mise à la disposition, donc créée au sein de ce ministère. Cette cellule prépare les dossiers et c'est cellule qui sera chargée d'assurer et la passation et le suivi d'exécution. Mais voici l'innovation. Mais pour passer d'une étape à l'autre, la cellule doit requérir l'avis de non-objection sur la conformité des procédures auprès de la Direction générale de contrôle des marchés publics. En d'autres termes, ils préparent le dossier, mais ce n'est pas à eux d'approuver le dossier. Il faut qu'une autre autorité contrôle la conformité de la procédure. Et là, c'est l'autorité donc la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et si, par exemple, déjà à cette étape, prenons le cas lors de l'attribution des marchés, il y a des opérateurs qui sont lésés. Parce qu'il s'estime que voilà, il a présenté l'offre qui pouvait passer, mais techniquement, il ne trouve pas que, donc, on n'a pas dû tenir compte de son offre. Ils ont la possibilité de saisir l'autorité de régulation des marchés publics, qui dispose en son sein d'une structure qu'on appelle les comités de règlement des différends. Le comité est représenté par la société civile, les secteurs privés et l'administration publique, sans prépondérance d'une structure quelconque. Donc, si la saisine est effective, la saisine peut entraîner l'arrêt de la procédure de passation de marché. Voilà un peu. Oui.
Voilà, merci monsieur le conseiller. La GESP Diou, vous êtes député national de l'opposition, cadre du MLC, membre de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. On se souvient que lors de la présentation de l'exécution du budget au premier semestre à l'Assemblée nationale, du rapport d'exécution, la commission Ecofin a notamment relevé beaucoup d'incohérences en ce qui concerne la passation du marché. Êtes-vous satisfait avec la promulgation de cette nouvelle loi?
Écoutez, nous ne pouvons qu'être satisfaits parce que nous l'avons voté. Il appartenait au président de la République de promulguer. Nous sommes satisfaits pourquoi? Parce que comme vous venez de le dire, lorsque nous avons examiné le budget, le premier semestre 2009, rien que le premier semestre 2009, nous avons trouvé qu'il y avait plusieurs incohérences. Non pas seulement qu'il y avait plusieurs incohérences, mais aussi nous avons constaté que l'argent de l'État passe par là. Je pense même que le Conseil ne va pas me contredire. Je pense même que 30% du budget de l'État, si pas 30% du budget de l'État, passe par les marchés publics. Donc, le marché public constitue, je dirais, un maillon important de l'économie nationale. Non pas seulement un maillon important pour l'économie nationale, mais aussi, c'est là que se recrutent les mafieux de notre système économique. Vous trouvez des personnes qui ont obtenu des marchés publics sans avoir réellement la capacité professionnelle, la capacité financière, sans que les documents qui doivent être requis soient réellement conformes à la passation des marchés. Mais avec le jeu de, allez, disons les choses telles qu'elles se présentent, avec le jeu de sous des tables, hélas, vous trouvez que ce monsieur a obtenu le marché. Mais lorsque vous cherchez même son adresse physique, vous ne le trouvez même pas. Il est difficile d'identifier beaucoup de personnes qui ont obtenu des marchés importants de la République. 3 millions de dollars, 10 millions de dollars, mais son adresse physique, vous ne savez même pas le retrouver. Et donc, vous comprenez que lorsque quelqu'un qui a obtenu un marché de 3 millions, 5 millions de dollars, n'a même pas une adresse physique où on le retrouve, vous avez vite compris que les choses se passent de façon irrégulière. Donc, nous ne pouvons que nous satisfaire de la promulgation de cette loi que nous avons votée au niveau du Parlement.
Honorable Bidiou, est-ce que cette nouvelle loi, cette loi répond-elle aux exigences de transparence?
Écoutez, dans la mesure du possible, cette loi répond aux exigences de transparence parce que, contrairement à ce qui se faisait hier, aujourd'hui nous avons par exemple l'autorité de régulation. Cette autorité, à moins qu'elle soit elle-même corrompue demain, je ne voudrais pas pressentir qu'elle sera corrompue, mais cette autorité vient en fait régler certaines difficultés qu'on avait hier, par exemple avec les adjudications. On y trouvait par exemple le marché de gré à gré. Un marché de gré à gré de 10 millions de dollars, c'est impensable. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, nous allons croire que les objectifs vont être atteints. Parce que les objectifs, entre autres, c'est aussi quoi? C'est aussi l'amélioration du climat d'affaires en République démocratique du Congo. Et cette loi va également dans le sens de l'évolution, parce qu'aujourd'hui, la loi financière qui est là, elle est obligée d'être changée. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons déjà adopté la nouvelle loi sur les finances publiques, qui donne la responsabilité à chaque gestionnaire. Parce que hier, aujourd'hui encore, je dirais, on a un budget programme, alors que demain, on va avoir un budget de résultat. Vous avez demandé 500 millions de dollars, vous avez demandé 500 millions de francs congolais à l'autorité budgétaire pour atteindre quel résultat en l'espace de 3 ans, par exemple. Donc, nous pensons que cette loi vient quand même répondre à certaines préoccupations qui étaient celles de tous les Congolais, qui étaient celles de voir l'État essayer un peu de maîtriser ce secteur, parce que l'État congolais, la République, a perdu beaucoup d'argent inutilement avec la loi telle qu'elle fonctionnait. La loi n'était pas imparfaite, Bon, le Conseil l'a dit, il doit s'adapter par rapport aux nouvelles exigences, mais aussi la mauvaise foi, le manque de moralité, le manque de sanctions qui a été érigé presque en système, parce que la loi est devenue inadaptée à l'évolution de différentes valeurs, de différents concepts.
Merci, honorable. Vous avez parlé du marché de gré à gré. Ou par entente directe, l'émission est aussi pédagogique. Pour nos auditeurs, ça veut simplement dire, d'après la définition que donne la loi, c'est un marché passé sans appel d'offres. Alki Kenge, vous êtes analyste économique et stratège. Quelles sont pour vous les forces et les faiblesses de cette nouvelle loi?
D'abord, on la compare à une loi de 1969 qui a perdu toute son efficacité sur le terrain. En fait, nous n'avions plus de réglementation des marchés publics. Ceci a débouché sur de la corruption généralisée, sur de la qualité extrêmement faible des biens et services que l'État a tirés, et bien entendu, ça a créé aussi des spots dans le système. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir une nouvelle loi. Déjà, le fait que c'est une nouvelle loi, ça veut dire que ça nous remet tous en question. C'est une excellente chose. Deux, une loi, elle est opposable à tout le monde, de haut en bas de l'échelle de gestion de notre pays. Mais il y a une composante importante qui doit se réveiller. C'est la composante citoyenne. Il est important que maintenant qu'on a mis en place une loi sur les marchés publics, qu'il se crée ce qu'on appelle un observatoire des marchés publics, des indépendants, des citoyens congolais, qui surveillent comment l'État passe les marchés. Comme ça, on a le pouvoir public organisé, on a les citoyens qui surveillent la cité. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'avec aujourd'hui une loi complète sur la passation des marchés, il est important que l'État congolais se dote d'un grand plan, avec des grandes structures, avec des grands objectifs, avec des grands budgets, pour être en mesure d'appeler des grands opérateurs économiques internationaux et des grands financiers internationaux dans ce marché que nous avons finalement organisé. Puisque l'une des choses qui chassait les grands opérateurs économiques ici chez nous, c'est le fait que les marchés se passaient de gré à gré presque tout le temps. Ici, pour avoir un grand marché, il faut aller voir le chef de l'État. Alors n'importe quel petit blanc qui vient de je ne sais où, avec des souliers qui ne sont même pas tirés, il veut voir le chef de l'État.
Ce n'est pas péjoratif. Hein.
Non, non, pas du tout, je ne sens absolument rien. C'est pour dire qu'en fait, à un moment donné, nos ministres, ils passent le temps à recevoir des gens. Ce n'est pas leur travail. Tout le monde veut voir le chef de l'État parce qu'on pense que le chef de l'État va influencer un marché ou un autre. La seule chose qui est vraiment très bien lorsqu'on s'engage à produire une loi comme celle-ci, et il faut féliciter le ministère, le Parlement et en définitive le chef de l'État, c'est que finalement, tout le monde s'engage à suivre une réglementation bien déterminée.
Il n'y a pas une loi théoriquement, justement.
Il n'y a pas une loi parfaite. Nous allons passer au travers d'une courbe d'apprentissage parce que la mise en pratique, la formation du personnel, l'audit même des premiers marchés qui vont passer, ça va être un petit problème. Mais ce n'est rien. Le plus important, c'est qu'on a pris une décision collégiale. La nation a décidé que nous allons faire les choses différemment parce que nous avons vu le mauvais côté de l'ancien système. Donc, pour l'instant, pour moi, le plus important, c'est de divulguer suffisamment le code. La deuxième étape, c'est mettre toutes les structures à toutes les étapes et former les gens à cela. Troisième chose, s'assurer que la composante citoyenne, ça veut dire les citoyens, ont une transparence et une traçabilité de tout ce que l'État est en train de faire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, les informations financières du domaine public, ça veut dire celles qui ne sont pas censées être réservées de manière spéciale, doivent être publiées. Quand quelqu'un gagne un marché, on doit savoir qui était concurrent, qui a gagné et qu'est-ce qui a fait sa force. Et ce genre d'informations doivent passer dans la communauté. La dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que le plus grand client dans le monde entier, c'est l'État. L'État est le client le plus crédible. Ça veut dire qu'il doit payer ses engagements. C'est bien d'avoir un code de passation de marché, mais si l'État ne paye pas correctement ses fournisseurs, ça va poser un problème. Et si les modalités de paiement deviennent trop compliquées, ça va amener le face-à-face habituel et donc la corruption. Donc il est important de se rendre compte qu'il y a des changements qui viennent intervenir. Il faut faire intervenir certains changements au sein de l'organisation de l'État.
Prenons cette réaction qui nous vient d'Ovira Sultivo pour vous, Alkitine.
C'est Aline Rifiki qui manque d'Ovira Sultivo. Je pense que ce ne sont pas de bonnes lois qui manquent dans ce pays du tonnerre application. C'est pourquoi je doute très fort que la nouvelle sur la passation de marché public ne fasse l'exception. Car ça sera l'une parmi tant d'autres qui demeurent en souffrance.
J'ajoute deux petites réactions dans le même sens à Kitenge. Melki de Kamanga au Kasaï occidental. Pourquoi la RDC est professionnelle en élaboration des tests, mais trop faible pour en assurer l'exécution? Et Patrick de Mwanda au Bas-Congo, il ne se pose pas du tout un problème de texte, mais c'est bien plutôt celui de leur application à Kitenge.
Non, il faut savoir que le monde se modernise, les choses changent autour de nous, nous devons absolument changer. Il est important pour nous de savoir lire au travers de l'histoire et regarder ce que les autres font. Il ne faudrait pas que nos frères et sœurs versent dans le pétillisme exagéré. Et ça peut se comprendre. Le désespoir est tellement grand. Mais il est important qu'ils apprennent à faire confiance à ceux qui nous dirigent et qu'on se fasse confiance mutuellement. C'est important. C'est pour ça que je dis qu'il y a un rôle, non pas passif, mais actif
des citoyens, ce qu'on appelle un observatoire des marchés publics. Et on peut avoir cet observatoire à tous les niveaux. Vous surveillez le bourgmestre, vous surveillez le chef de district, vous surveillez le gouverneur, vous surveillez les ministres, vous surveillez le chef de l'État. L'État, c'est une composante à double pièce. Il y a les dirigeants et la masse qui est dirigée, qui est d'ailleurs aujourd'hui élit ceux qui sont censés nous diriger. Donc la population a un pouvoir, il faudrait qu'elle l'exerce.
Monsieur le conseiller Paul Louansangou, il y a Chantal Faïba, étudiante en deuxième licence économie à l'UPGL Goma Nord Kivu, qui demande que deviendront les agences d'exécution telles que le BCECO qui facilitait l'exécution des projets.
Merci, je voudrais juste avant de répondre à l'étudiante, revenir quand même sur certains points de clarification qui étaient, à mon avis, assez importants. Je crois qu'il a été relevé tout à l'heure qu'il faut, pour aider à ce que la loi qui a été adoptée ainsi que ce texte d'application permettent à ce qu'on atteigne vraiment l'objectif, c'est qu'on ait ce que le collègue a appelé tout à l'heure l'observatoire un peu de la société civile. Et là, c'est pourquoi je vous ai dit que la loi se rentre dans un dispositif qui est global. Qu'est-ce que le dispositif a prévu? Ça, c'est la divulgation de l'information à travers l'autorité de régulation de marché qui a un site web et qu'il est prévu d'avoir des périodiques. Qu'est-ce qui est prévu encore pour la divulgation d'information? Si vous lisez la loi, il y a l'obligation de la publicité avec un délai minimum. Quand vous devez faire l'appel d'offres, vous devez prouver qu'il y a une large diffusion de l'appel d'offres et qu'il y a un délai minimum de 30 jours en deçà duquel on ne peut pas accepter l'offre.
Oui, mais donc, le conseiller, il y a déjà beaucoup de structures qui existent et on continue à en créer et qui n'ont pas de moyens, qui ne fonctionnent pas.
Je veux y arriver, j'ai fait le lien avec la question posée tout à l'heure par l'étudiante. Il faut comprendre quel est le contexte qui a appelé à l'existence les structures qu'elle est en train d'évoquer, par exemple, le BCMI et tout ça. C'est parce que, justement, le système avait présenté des faiblesses qu'on a estimé que nous sommes en train de nous aligner dans un contexte de réforme du système, mais en attendant, nous devons avoir des dispositifs qui nous permettraient pour certains marchés de pouvoir les passer à travers des procédures qui sont éprouvées, des procédures de barrière de fonds. Voilà donc pourquoi on a mis en place ces structures-là. À terme, on sait que puisque la loi est prise, les structures sont en place et tout ça. Donc, on doit aller vers la transformation parce qu'au moins, il y a une expertise qui existe dans ces structures. Au moins, la transformation et le changement des missions de ces structures, si elles doivent survivre. Donc, pour le moment, il y a la convergence de vues. Et sur le plan national, on l'a relevé. Je crois que l'honorable qui est en ligne avec nous l'a relevé. C'est un effort qui est national concerté. Au niveau des institutions de la République, y compris le gouvernement qui a initié le Parlement et les chefs de l'État, et au niveau des partenaires au développement qui nous ont accompagnés et qui ont adhéré, si vous voulez, au processus de l'efficacité de l'aide, qui a comme pilier le fait qu'ils acceptent qu'à terme, même les aides qu'ils doivent apporter au pays doivent passer dans les procédures nationales. Donc, comme pour dire que l'objectif de cette réforme est qu'à terme, si vraiment ça peut, le système commence à tourner, il faut que cette structure soit mutée dans d'autres missions, mais pas dans les missions de passation des marchés.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous, monsieur le conseiller.
Je suis Didier de Kinshasa. Cette nouvelle loi n'augure aucun changement parce que les acteurs restent les mêmes. Tenez par exemple ici à Kinshasa. Il y a des entreprises qui ont gagné des marchés pour aménager des routes et qui n'ont même pas réalisé 5 km. Et quand la population a protesté, le gouvernement n'a pas branché un seul instant. Je pense que tant que nous aurons les mêmes dirigeants, rien ne va changer.
Est-ce un problème d'homme ou de texte? Bref, réaction de
ce oui. Tout à fait, c'est un ensemble. Quand on dit que ce n'est pas seulement un problème de texte, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'on accepte le principe qu'il y avait aussi des faiblesses. Et ça, c'est dit clairement dans l'examen du système qu'il y a un problème d'homme. Voilà pourquoi, dans les dispositifs, il est prévu les programmes de formation et de moralisation des acteurs. Ce programme a déjà commencé. Je crois que dans les médias, on a vu qu'on venait de finir la formation pour les personnels qui est chargé de contrôler. Et il y a moins d'une semaine, on vient de finir la formation pour les personnels qui est chargé de confectionner les dossiers de marché, donc au niveau des cellules. On estime que s'il y a un accompagnement, parce qu'il y a des erreurs qui se commettent tout simplement du fait de l'ignorance. Donc s'ils ont la bonne compréhension des procédures, c'est déjà un élément. Et deuxièmement, parce que ce qui est décrié, nous devons aller de l'avant. Si nous sentons qu'il y a un problème, pour aller de l'avant, les solutions, c'est revoir les textes, préparer les personnels pour qu'ils agissent et accompagner ce personnel-là en termes de compétences nécessaires et de, si vous voulez, d'éléments moraux nécessaires pour qu'ils travaillent comme il faut.
Honorable Lajos Bidiou, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition, cadre du NLC et membre de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Avec vous, on aborde directement la deuxième partie de cette émission. Honorable, cette nouvelle loi, d'après vous, pourrait-elle permettre de combattre efficacement la corruption dans ce secteur? Vous en avez parlé tout à l'heure.
Écoutez, si chacun de nous peut faire son travail, je crois qu'elle peut combattre la corruption. Parce que en amont, nous avons l'autorité de régulation, par exemple. Mais en aval, il y a l'Assemblée nationale, il y a la justice. Donc, si l'autorité de régulation fait son travail, si l'Assemblée nationale fait son travail de contrôle, bien entendu, de contrôle parlementaire.
Mais le contrôle n'a presque rien apporté, hein, le contrôle parlementaire jusqu'à aujourd'hui.
Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, on ne peut pas dire que ça n'a rien apporté. Parce que lorsque l'Assemblée nationale, je prends par exemple ce dont vous avez fait allusion tout à l'heure, le contrôle parlementaire qui a été effectué par nous concernant l'élection du budget du premier semestre 2009, le Parlement a fait le travail. Mais il reste à la justice de faire aussi son travail. Pourquoi la justice ne fait pas de travail? Parce que nous avons fait le rapport à la plénière. La plénière de l'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité le rapport, notre rapport. Évidemment, vous vous souvenez de quelle manière nous avons accueilli. Mais enfin, le président de l'Assemblée nationale, en clôturant le débat, nous a dit qu'il transmettait le dossier au niveau de la justice. Et là, nous constatons que depuis que le dossier, j'ose croire qu'il a déjà été transmis, je ne voudrais pas mettre en doute la parole du président de l'Assemblée nationale, mon président, jusqu'à ce jour, nous n'avons rien vu. C'est comme si la justice est restée tout à fait sourde à ce qui a été présenté par l'Assemblée nationale en ce qui concerne ce contrôle. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le journaliste, et ce qui débatte avec moi? Chacun de nous le sait que lorsque la mafia s'installe dans les structures de l'État, mais croyez-moi que l'État est paralysé. L'État n'a plus la force qui est le sien pour pouvoir sanctionner, pour pouvoir mettre de l'ordre dans le futur. Et sur le cas de notre pays aujourd'hui, la mafia, que nous avons même caché la macro-mafia, a pris sincèrement de l'espace des assises dans les structures de l'État. Et a recruté même parmi les animateurs de ces structures de l'État. Voilà pourquoi on a l'impression que les lois qui sont votées ne servent à rien parce qu'il y en avait déjà qui existaient. Non, c'est vrai, il y a des lois qui existaient. Dans le cas des fêtes, nous avons dit qu'il faut nécessairement moderniser, qu'il faut nécessairement suivre un peu l'évolution des exigences de la mondialisation. Donc, notre vrai problème, je vais terminer par là, notre vrai problème, c'est que si la justice ne fait pas son travail, pendant que l'Assemblée nationale, le Parlement, voulait-je dire, fait le travail, et que la justice, de son côté, ne fait pas de travail, croyez-moi que ceux qui sont en train de vous téléphoner, à ce moment-là, auront raison que les lois que nous votons ne servent absolument à rien. Et pourtant, elles servent à quelque chose.
Alors, puisque vous parlez des auditeurs, il y en a un qui nous appelle de Mbandaka et il a une réaction pour vous.
Docteur Bali de Mbandaka. Malgré cette loi, la corruption continuera toujours à caractériser l'action des marchés publics et des prévisibilités des habits, malgré cela, sur le pouvoir ici chez nous, à RDC. Parce que ceux qui veulent bien faire pouvaient aussi le faire avec l'ancienne loi et sanctionner positivement ou négativement ceux à qui sont confiés les marchés publics.
Bref, réaction honorable. Visiblement, comme on dit, on n'est pas sorti de l'auberge.
On n'est pas sorti de l'auberge, mais je crois que la loi qui a été votée, promulguée par le chef de l'État, a comme je dirais, notre volonté, la volonté du législateur, c'est de faire en sorte que nous allions vers une perfection. Même si on ne saura jamais atteindre cette perfection-là, mais que nous puissions limiter au maximum les dégâts causés par la corruption, les dégâts causés par les structures mafieuses qui ont paralysé l'État.
Merci, Alkitenge. Je rappelle que vous êtes analyste économique et stratège. L'honorable Bidiou parle du contrôle parlementaire et de la justice qui doit faire bon ménage pour combattre la corruption dans le secteur des passations de marché. Est-ce que cela suffit?
Je vais dire deux choses avant de répondre à cette question. Je vais répondre à notre brillante auditrice Régis Kimongue qui nous appelle tout à l'heure, Il ne faudrait pas qu'elle se caractérise par un pessimisme. Moi, je dis d'abord aux intellectuels congolais. Prenez la peine de lire ce document. Il est sur Internet. Prenez la peine de le lire et de le comparer avec l'ancien avant de le critiquer. On va voir ce qui est réellement des bénéfices et ce qui ne l'est pas du tout. Deuxième chose, les hommes politiques, par définition, il ne faut pas leur faire confiance.
Vous faites allusion à l'honorable.
Non, non, les hommes politiques en général, par définition, il ne faut pas leur faire confiance. Il faut les surveiller. Ici, nous donnons des chèques en blanc aux politiciens. Il est donc important que la société civile congolaise se rende compte qu'elle reste responsable et qu'elle a tort de vouloir aller en politique. Human Rights Watch, Global Witness et toutes ces grandes organisations que l'on voit ici qui pompent des rapports, qui font trembler le gouvernement américain, qui secouent sérieusement les gouvernements occidentaux, c'est des ONG. C'est des citoyens qui se décident de se mettre ensemble pour concourir à la surveillance de la cité. Et je peux vous dire une chose qui va vous surprendre. Une partie de leur financement, ce sont les États, mais la grande partie, c'est des donations, des gens qui croient en des valeurs et aux missions de ces gens. Et c'est important que la société congolaise se rende compte qu'elle est responsable de ce qui lui arrive. Même les chefs que nous avons, nous en sommes responsables. Et donc, c'est important que les citoyens sachent qu'ils ont un rôle à jouer. La première étape, en ce qui nous concerne, c'est de bien étudier et comprendre les textes. Comme ça, on sait au moins sur base de quoi on est en train de parler. Maintenant, pour revenir au pessimisme de l'honorable, je dis oui, il a totalement raison, il est dans sa fonction d'opposition, et c'est normal. Donc, les gens qui sont au pouvoir et qui, finalement, ont promulgué ce document, ont le devoir de nous montrer leur degré de discipline entre la conception d'un document et sa mise en pratique. L'exemple vient d'en haut. Il est important qu'on arrête de harceler nos ministres et que chaque administration à son niveau, le demandeur du bien ou du service, soit à la base du marché. Il y a bien sûr un certain nombre de compétences qu'il faut bâtir. Par exemple, comment construire un cahier des charges, comment s'adresser à la communauté nationale et internationale par rapport au marché qu'on désire passer, dans quel canon il faut faire passer les publicités. C'est des choses importantes. À côté de ça, il est important que lorsque nous avons un plan de visibilité important, qu'on aille sur le marché international. Il y a des endroits où les grandes nations se rencontrent secteur par secteur. Le Congo doit aller là-bas. Cet outil est pour nous un outil important qui permet de dire aux gens, nous sommes de bonne foi, on voudrait faire des choses positivement, correctement, et donc venez chez nous.
Il y a deux auditeurs, l'honorable Odiane et Paulin, qui nous écrit de Kisangani en province orientale. Je pense que cette loi est une bonne chose, car le respect et le combat contre cette opération retour dépendent de la volonté politique qui semble être absente à ce jour. Victor de Lubumbashi au Katanga, ce ne sont pas les textes qui ont manqué dans ce pays, mais on constate qu'il y a un sérieux problème d'impunité, et tant que, qu'elle continuera, la corruption continuera également, quel que soit le texte en vigueur à Kitenge.
Oui, nous sommes dans le congolo-pessimisme. On est très pessimiste dans ce pays, mais je ne crois pas que cette attitude négative peut nous relever.
N'est-ce pas l'expérience qui...
Oui, mais les gens nous ont déçus, les élections arrivent, c'est à nous de nous réveiller pour choisir de manière responsable les gens qui nous dirigent et être exigeants en permanence avec eux. La société civile, les citoyens sont importants dans une nation. Ils n'ont pas un rôle passif, ils ne doivent pas se plaindre, ils doivent agir. Et la Constitution prévoit des mécanismes par lesquels les citoyens sont censés s'exprimer. Vous savez, la personne humaine est un animal pensant. Vous lui laissez trop de liberté, il fait comme il l'entend. Alors, il est important de continuer à lui faire pression pour qu'il se rende compte qu'il y a une échéance qui arrive et vous avez des comptes à rendre. Toute organisation et tout gouvernement doit rester en permanence comptable. Et donc le lien entre les politiciens et nous doit partir sur la défiance au départ. Nous vous avons donné un mandat, nous vous surveillons si vous nous convainquez. Tant mieux si vous ne nous convainquez pas, nous vous dénonçons en permanence. Et donc, encore une fois, les citoyens doivent arrêter de se plaindre. Ils doivent prendre leur rôle d'acteur de la société au sérieux.
Paul Louansang, je rappelle que vous êtes conseiller chargé de réforme au ministère du Budget et point focal pour la réforme des marchés publics. À l'article 81, il est prévu des sanctions, 81. Par exemple, l'exécution temporaire de la commande publique, le retrait de l'agrément et ou du certificat de qualification, l'exclusion temporaire ne peut... Alors, voilà, en parlant des sanctions, l'honorable ainsi que les auditeurs fustigent l'impunité qui gangrène ce secteur. À l'Assemblée nationale, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on a dénoncé des entreprises qui ont gagné des marchés pour construire des routes, bâtir ceci ou cela, qui ont perdu de l'argent et qui ont disparu dans la nature et aujourd'hui des dossiers presque sans suite.
Oui, vous savez, c'est tout de suite quand on a une lecture assez rétrospective des choses qu'on refuse à un moment donné d'accepter de regarder de l'avant, en analysant ce qu'on sait aujourd'hui.
Expérience.
On arrive à cette lecture qu'on considère malheureusement qui élève de l'afro-pessimisme. Nous estimons qu'effectivement aujourd'hui, même ceux qui parlent de la politique doit être saisie à travers ce qu'on attend des politiques. Pour le moment, on est au début de la mise en œuvre de cette importante réforme, de l'application effective. Comment s'est manifestée cette volonté politique? Je vous ai dit qu'il y a un arsenal de textes juridiques qui devait être pris par des actes, des décisions administratives, mais par des autorités politiques. Est-ce que ces décisions ont été prises? Oui. Ces actes ont été pris, oui. Je vous ai dit qu'au-delà de la loi, il y a au moins 7 décrets d'application qui ont été pris. Deuxièmement, les nouvelles institutions créées qui devaient cristalliser toutes ces énergies, est-ce qu'elles sont mises en place? Oui. Est-ce que les autorités sont nommées? Oui. Est-ce qu'ils sont accompagnés d'un appui logistique et en termes de formation, de développement des capacités? Je vous ai dit que oui.
Deuxièmement, donc cela va lutter contre la corruption dans ce secteur.
Deuxièmement, voilà pourquoi je dis qu'on doit y aller méthodiquement. Sur le plan purement pédagogique, il y a deux approches de la corruption. Il y a ce qu'on appelle la corruption qui est passive, liée aux conditions matérielles qui favorisent la corruption, c'est-à-dire la défaillance dans le texte. La première étape qui nous permet d'avoir des textes donc, qui étouffent un peu les espaces, les libertés, les marges de manœuvre données aux acteurs pour pouvoir corrompre ou être corrompus, ça c'est déjà les textes, essayer de nettoyer ça le plus possible. Et en donnant maintenant les instruments juridiques et citoyens nécessaires pour suivre, c'est le collègue, je crois, Ali l'a dit, pour permettre à chaque énergie que chacun puisse suivre, que donc ceux qui relèvent du pénal suivent, que les citoyens suivent. Et je vous ai dit, je vous donne un dispositif qui nous aide dans ce sens-là, pour être pratique. Aujourd'hui, aucun ministère ne peut passer le marché si, au préalable, ça n'a pas relevé d'un plan de passation de marché qui a été publié, donc connu. Et ces avis d'appel d'offres doivent être publiés et connus. Maintenant, c'est à chacun de voir dans quel canot, comment on peut avoir cette information-là.
Honorable Bibiou, il y a Gérard Kazingoukou de Denis Nord-Kivu qui dit « Toutes ces initiatives de passation des marchés sont vouées à l'échec au Congo. Ce qui bloque le développement, c'est le système mis en place expressément pour consacrer l'impunité. » Il y a Yahweh de Bouya en province orientale qui cite les différentes étapes de passation de marché, mais qui dit « Chacune de ces étapes a sa spécificité et fait intervenir dans le cadre des circuits différents selon les procédures utilisé, qui ne doit pas se faire dans des bistrots autour d'un verre, comme les Congolais ont l'habitude de le faire, pour chercher à remplir leur propre poche.
Bien, écoutez, d'abord, si vous me permettez, je voulais rassurer notre analyste politique qui dit qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes politiques. Au contraire, Il faut faire confiance aux hommes politiques, car seul le politique a la légitimité du changement. Mais bien entendu, comme on aime bien le dire, le contrôle, dit-on, renforce la confiance. Je suis d'accord avec lui que le citoyen doit contrôler. La société civile doit faire son travail. La société civile doit même travailler, je pense, comme un accord en toute franchise avec les élus pour faire aboutir le combat qui est le sien. Ça, c'est pour nos amis qui ont appelé. Écoutez, je crois que c'est justement pour cette raison-là qu'il a fallu qu'il y ait une nouvelle loi, une loi qui s'adapte à, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui s'adapte aux exigences de la mondialisation. Vous savez que, monsieur le journaliste, même les gangsters, même les mafieux modernisent leur technique de mafia, modernisent leur technique de corruption. Le gangster modifie sa technique de corruption. Donc il faut nécessairement que la loi aussi ne soit pas en reste. Et à la limite, même la loi doit anticiper pour pouvoir arrêter, je dirais, les mécanismes qui sont mis en place par les corrupteurs, par les gangsters, par tous ces... il n'y a pas une autre appellation. Tous ces voleurs, tous ces détourneurs des deniers de la République. Je crois que c'est la raison même d'exister d'une loi, c'est la raison même qui fait que la République démocratique du Congo puisse avoir cette loi-là.
Merci.
Elle répond à l'amélioration du climat d'affaires.
Al-Kitenge, vous avez dit tout à l'heure que l'État devrait payer ses engagements. Plusieurs fois, l'État a pris des engagements avec des tiers ou des entreprises et les paye.
Et il paye le tiers parce que le tiers est resté chez celui qui a passé le marché.
Et il faut des pourcentages pour avoir le reste.
La personne devient incapable d'exécuter le marché. En fait, en définitive, on ne voit que la personne. C'est pour ça qu'il est important d'évacuer le cash du système. Il faut payer les gens par voie bancaire. Ça laisse des traces. En ce moment-là, le responsable de tout détournement est connu. Dans notre pays, on vous donne 100 000 dollars, 500 000 dollars, 1 million de dollars en cash à la banque centrale. Mais il faut être fou pour faire ce genre de choses, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est la première des choses qu'il faut supprimer. Il faut faire exactement ce que tout le monde fait à travers le monde. On paye par des voies bancaires et aujourd'hui, heureusement, nous avons de plus en plus de banques commerciales. C'est la première des choses qu'il faut faire, évacuer le cash. Et deuxième chose, si nous désirons être performants, il faudrait que nous croisions les informations. Vous savez, quelqu'un qui gagne un marché d'1 million de dollars, il doit être fiscalement citoyen. Mais pour que le donneur du marché se rende compte de sa position fiscale, il faudrait qu'il accède aux informations. Dans notre pays, toutes les informations sont segmentées. Chacun a ses informations dans un coin. Tous les pays du monde ont mis des informations sur la plateforme, essentiellement les informations économiques et financières du domaine public. Ça veut dire, en fait, celui qui donne un marché, il doit savoir quelle est la position fiscale. Donc, si c'est quelqu'un qui ne paye même pas les taxes, il ne peut pas accéder au marché public. Ça, c'est des choses simples. Donc, l'information économique doit être unifiée. Il y a donc un travail de ce côté-là. La corruption, c'est un sport mondial. Il faudrait le savoir. Et notre pays doit pouvoir se mettre en bataille permanente comme tout le monde entier.
Et il faut privilégier les nationaux également.
Ah, ça, c'est aussi évident que ça. Pour alimenter l'économie congolaise avec le marché public, il est important que nous développions des acteurs congolais qui prennent en premier ou en deuxième palier des marchés publics. C'est aussi simple que ça. C'est la seule manière d'alimenter l'économie et d'augmenter le PIB.
Monsieur le conseiller, il nous reste moins d'une minute trente pour terminer l'émission. Votre conclusion déjà.
Ma conclusion est que pour le moment, tous les acteurs sont en train de converger leurs efforts pour qu'on arrive à réussir cette importante réforme. Ce qu'on attend de la société civile, c'est de pouvoir améliorer les contrôles citoyens. Les informations sont disponibles. Je crois que ça peut aider à ce que la société civile dénonce, contrôle les engagements des uns et des autres. C'est alors qu'on va obtenir les résultats attendus de cette réforme.
Merci, M. le conseiller. Honorable Lajos Bidiou, un mot également en guise de conclusion.
Eh bien, merci. Un mot comme Amil. Je crois que comme l'a dit M. Tengue, il faut nécessairement réhabiliter le circuit bancaire pour tout ce qui concerne les grands marchés publics. Deuxièmement, la constitution est claire. Il faut que les hommes politiques qui entrent au gouvernement, qui ont le mandat du peuple, puissent, que l'État puisse déclarer leurs avoirs au moment où ils entrent en fonction et au moment où ils
sont. Merci, honorable.
Je pense qu'on ne le suit pas.
Et, ça donne même... et moi, j'en appelle à la mise en place d'une presse spécialisée sur les marchés publics. C'est un nouveau domaine. Il devrait y avoir des journalistes qui s'y intéressent et ce serait très bien.
C'est prévu d'ailleurs dans la loi, monsieur le conseiller.
Voilà. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Elle est terminée. Retrouvez-la sur radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion à 14h15 heure de Kinshasa. Restez branchés sur Radio Capi.